scénario apocalyptique, là, beaucoup de gens parlaient d'un Black Monday 2.0.
Ah.
Le Black Monday, c'est en 1987. Le SP500, donc les 500 plus grandes entreprises américaines, avaient perdu en l'espace d'une seule séance de trading, fait qu'une seule journée, 21.4% de mémoire. Là. Finalement, hier, ça a été à peu près even. Fait que le Black Monday ne s'est pas produit, là, mais c'est surtout jeudi, vendredi, que ça a vraiment pas bien été. C'était des séances historiques, là.
Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'investisseur? Là, j'imagine que tu vas nous reprendre la phrase célèbre de Carey Price, « Chill out ».
Ben, hey, ce serait bon, ça, pour vrai. À la place de faire fendre le cul, hein, faire une vidéo à tout le monde, là, j'aurais juste dû envoyer « Chill out » de Carey Price.
Hey, gang!
Ça aurait été magique.
« Chill out ».
Une affaire qu'on peut faire, là, puis c'est toujours la même chose, là, c'est de se rappeler. Moi, j'aime toujours ça. J'aime pas ça avoir un compte d'un client que je sais pas il sert à quoi.
Mm-hmm.
Je veux que si on a un compte, si on a une somme qui est investie, ce soit associé de près ou de loin à un objectif. Fait qu'on se repose la question, c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Si c'est de l'argent pour notre mise de fonds, pour notre maison dans 3 mois, mais là, c'est sûr que normalement, elle serait pas supposée être investie à ce point-là puis exposée
au risque, mettons,
marché.
Là, ouais.
Mais à seconde où on sait que c'est de l'argent pour un projet dans 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 ans, on ne prend jamais de décision à court terme pour de décision à long terme pour des considérations à court terme comme on vit cette semaine.
Niaiseusement parlant, avant de poursuivre les explications, mettons que je suis à 6 mois de ma retraite là, puis que je vois ça tomber là, comme ça sur le dernier droit, là, je comprends, moi, du monde d'être paniqué. Là.
Oui, je comprends du monde d'être paniqué, mais il faut toujours le mettre en contexte.
Mm.
Parce que ça, c'est une affaire que je vois souvent dans des planifications financières. On dirait que tu passes d'un extrême à l'autre. Tu es un travailleur actif, fait que tu es exposé au marché. Plus soudainement, tu arrives à 65 ans, plus tu sors des marchés totalement, tu deviens un investisseur super conservateur. La réalité, là, c'est que, mettons que tu as 65 ans, là, moi, il faut que je t'amène à 95 dans ma planif. Là.
Ouais.
Fait que tu es encore un investisseur pendant 30 ans. Là.
C'est pas fini.
Tu vas décaisser différemment, dans le fond.
Exactement. Fait que pour quelqu'un qui est retraité, moi, ce que je recommande toujours, c'est tout ce qui est ta liquidité de la prochaine année ou des 2 prochaines années, c'est là, sécurise-la, prends pas trop de risques avec ça. Puis tout ce qui est au-delà de cet horizon-là, bien, continue de t'exposer au marché quand même, parce que même si tu as 65 ans, tu vas sortir de l'argent à 80 ans, puis à 82 ans, puis à 87 ans. Cet argent-là, je veux qu'il fasse du rendement présentement. Là. Fait que on s'entend, c'est plus stressant pour quelqu'un qui est 65, 70, 75 ans que quelqu'un qui a 22 ans, mais ça reste que la logique, elle est la même. C'est pas parce que tu es à la retraite que tu as besoin de l'ensemble de ton cash dans les 3 prochaines semaines.
C'est une drôle de question que je vais te poser, Alex, là, mais est-ce que quelqu'un peut te poursuivre? Tu sais, mettons là, que moi, j'ai ça, 65 ans, puis tu me conseilles, puis tu me dis, non, moi, je te dis, laisse tes placements-là, ça va bien aller, ça va bien aller, puis finalement, pour une raison que j'ignore, ça va vraiment pas bien, puis j'ai perdu 250 000.
Bien, ça dépend toujours de ce qui est dit par le conseiller initialement. T'sais. Si le conseiller dit quelque chose genre, hey, ça, c'est pas risqué, c'est garanti, tu perdras pas de l'argent, puis finalement, c'est pas vrai, mais là, c'est clair qu'il y a une faute professionnelle, il y a une faute déontologique, puis il y a matière, possiblement, à litige. Par contre, si le client a été informé que « Hey, voici un investissement où on a un potentiel de gain, on a un potentiel de perte, voici ce que ça a fait historiquement, voici ce que ça pourrait donner dans le meilleur scénario, dans le pire des scénarios », si tout ça a été clair, que la documentation a été remise puis qu'il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là, bien, ultimement, le client, il prend la décision. C'est toujours une question de tolérance au risque. Ultimement, la vie, là, ce n'est que ça. Là.
Puis, en même temps, quelqu'un qui va investir pendant 20, 30, 40 ans de sa vie, il va y avoir des bouts où il va y avoir de l'incertitude. Je veux dire, statistiquement, c'est impossible de passer à travers 40 ans d'investissement puis que ça ne prenne pas une débarque une fois de temps en temps, j'imagine.
Exactement. Puis moi, souvent, on entend parler du fameux 8 %. Là. Les gens, ils veulent aller chercher 8 % en moyenne par année.
Okay.
C'est comme le sweet spot, on dirait. 8, 9, 10 %. Ce qu'on dit toujours aux clients, puis ça, il y a des statistiques, on a quasiment 225 ans d'historique de marché boursier qui viennent backer ça. Le marché est capable d'aller donner un 8 % à peu près en moyenne annuellement. C'est quelque chose qui est 100 % possible. Par contre, il n'est pas possible sans un risque significatif.
Des débarques.
Fait que l'idée, c'est de dire, OK, pour avoir mon 8 % en moyenne par année, 3 fois par année, là, je vais avoir des baisses de 5 % en moyenne.
Okay.
Une fois par année, je vais avoir une baisse de 10
%.
Mm. Ce qu'on a vécu dans la dernière semaine, là, c'est à peu près ça.
Okay.
Une fois aux 3 ans, je vais avoir une baisse de 15 %. Puis une fois aux 6 ans, je vais avoir une baisse de 20 %. Fait que le 8 % annuel en moyenne là, que je vais aller chercher, là, il n'est possible que si, pendant ces périodes de volatilité-là, je reste investi. À la seconde où je sors une pièce ou je change ma stratégie, mais là, la chaîne débarque.
C'est quoi la moyenne, mettons, d'années positives, là?
C'est 75%.
Non, c'est pas super.
C'est en bourse, là, t'as 3 bonnes années pour une mauvaise année. Fait que c'est pas toujours exactement ça, mais tu vois... en moyenne, depuis 1903, je pense.
Parce que ça peut être des périodes de quelques mois sur plusieurs années qui vont donner cet équivalent-là, mettons.
Exactement. Mais tu vois, depuis 2015, là, ça a été respecté presque à la lettre, cette moyenne-là. 15, 16, 17 ont été positifs, 18 a été so-so, 19, 20, 21, malgré la COVID, quand tu regardes les années complètes, là, ça a été des années super positives en bourse. 2022, la chaîne a débarqué, puis rien qui allait. 23, 24 ont été bons, puis là, 25, on verra bien. On a juste un trimestre de fait, là. Mais depuis, dans la dernière décennie, là, ça a été exactement ça. 3 bonnes années pour une mauvaise.
Alex, je trouve que tu as une Moses de bonne image et un bon exemple pour peut-être faire comprendre à quelqu'un qui est en panique puis qui dit « Hey, là, le marché s'effondre, vend tout. » L'exemple de la maison.
Exactement. Puis ça, ça vient de Warren Buffett, puis le gars avec qui je parlais tantôt, que je vous disais. Là,
Warren Buffett? Tu parlais avec Warren Buffett tantôt?
Ben, il m'appelait, il gosse.
Il voulait des conseils.
C'est ça, il gosse, il a des investissements. Là. En tout cas, fait que non, mais le gars, on parlait de ça. Puis l'idée, c'est de dire, hey, mettons que vous avez une maison qui vaut 500 000. Oui. Vous avez fait une évaluation, vous savez pertinemment, garde, elle vaut 500. Puis moi, le bozo, je cogne à la porte, puis je vous offre 425 000.
Dans le marché actuel, d'après moi, je te vends pas.
Exact. Je vous offre 15 % de moins que ce que ça vaut actuellement. Vous allez m'envoyer promener. Là. Ouais. J'ai pas rapport avec mon offre. Là. Pourquoi? Parce que vous savez que l'actif que vous avez entre les mains, il vaut plus que ça. Présentement, là, le marché des actions, c'est la même chose. Là, oui, il y a eu un recul temporaire dans la dernière semaine puis depuis le début de l'année. Mais en quoi Apple est une moins bonne compagnie? L'iPhone marche pareil.
Ouais.
Oui, il y a des questions autour de leur chaîne d'approvisionnement avec une partie qui vient de la Chine, une partie qui vient de Taïwan, mais ça, c'est que la compagnie est aussi innovante qu'elle l'était en décembre passé. Amazon n'est pas moins hot qu'il était en décembre passé. Pourtant, ces compagnies-là ont perdu 26 et 20 % de leur valeur respectivement.
Donc, si tu es quelqu'un d'actif et de proactif sur les marchés, c'est là que tu achètes, c'est pas là que tu vends.
Hey, j'ai reçu un courriel tantôt d'une cliente, puis l'objet du courriel, c'était les marchés dégringolent.
Ouais.
Là, je suis comme, oh boy, j'ai du rattrapage à faire.
J'ai de l'ouvrage.
Faut que je l'appelle. Puis finalement, j'ouvre le courriel, puis elle me dit, justement, les marchés dégringolent, elle avait de l'argent de côté là, qu'on avait mis justement pour. Je savais pas trop ce qu'on faisait. Il était pas investi ces marchés. Puis elle m'a dit, j'aimerais ça prendre un 20 000 de cet argent-là, puis l'investir sur les marchés parce que les prix sont bas. Puis là, j'étais comme, tabarnouche. T'as exactement compris comment ça fonctionne.
T'as la bonne attitude.
Si moi, je trippe sur le kayak, puis j'apprends que... Vous savez qu'ils vendent des kayaks chez Sail?
Ils ont-tu mais des kayaks chez Sail?
Ouais, okay. Oui, mais ouais. Normalement, c'est des magasins spécialisés.
Anyways, j'invente mon exemple. Je trippe ces kayaks, puis j'apprends que les kayaks sont à 15 % chez Sail. Sacrifice, que si je vais faire, je vais aller chez Sales, je vais m'acheter un kayak.
T'es que kayak!
Exactement.
Oui.
C'est là où je voulais m'aller. Les actions, présentement, c'est la même chose. Si vous vous jugez que Amazon, c'est une bonne compagnie, que Apple, c'est une bonne compagnie, que JP Morgan ou RBC ou peu importe laquelle de ces compagnies-là sont des bonnes compagnies, bien, présentement, vous avez la chance de les acheter à rabais. C'est la même chose qu'un billet d'avion à rabais, qu'un kayak à rabais, qu'un char à rabais, que n'importe quoi. Présentement, il y a des actifs qui ont une très bonne valeur. Et la valeur, elle est temporairement plus basse présentement. Fait que c'est un petit peu la même chose. Si ton magasin préféré fait un solde, un méga solde, là, tu vas y aller.
Fait que c'est de la chenoute pour les gens qui ont déjà investi, mais mettons que moi, je voudrais commencer à investir. C'est un beau moment.
Ben là, on rentre dans l'histoire de l'aspect du market timing. Moi, ma philosophie, c'est le meilleur moment pour commencer à investir, c'était hier. Le pire, c'est demain.
Oh!
Fait que, bon, c'est pour ça que...
Ça crée un sentiment d'urgence bon quand même, mais je...
Mais non, mais c'est vrai. Dans la mesure où il y en a qui sont payés très cher pour faire du market timing puis ils ne sont pas capables de le faire. Ils ne réussissent pas. Quand tu regardes toutes les données empiriques des 100 dernières années, là, la meilleure stratégie, c'est achète à chaque paye. Continue, même si c'est un marché haussier, même si c'est un marché baissier, continue toujours d'acheter puis tu vas faire un meilleur rendement que la personne qui essaye de timer ça.
C'est-tu une erreur dans une vie si tu n'investis pas, Alex?
Ah, c'est la plus grosse dépense que tu vas faire de ta vie.
Fait que c'est une erreur ou c'est pas une erreur? Parce que moi, j'ai pas moyen de faire des grosses dépenses. Là.
Ben, c'est une grosse erreur.
Ah, puis ouais?
Rendu là, c'est toujours relatif. Là. Si tu as le choix entre manger à midi ou acheter une action de Walmart, mange. Là. On s'entend. Là. Mais dans un contexte où quelqu'un a la possibilité d'investir, Bien, c'est une question de coût d'opportunité. Tu sais, il y a un principe qui a l'air super niaiseux en finance, là, mais qui est difficilement applicable. C'est la pièce que j'ai entre les mains, je peux juste la mettre à une place. Si je la mets en investissement, je ne la mets pas dans ma maison. Si je la mets dans ma maison, je ne la mets pas dans un voyage. Je ne peux pas dépenser deux fois cette pièce-là. Mais le coût d'opportunité de ne pas l'investir, bien, ça veut dire que je renonce à possiblement 8, 9, 10 % de rendement sur cette pièce-là. Applique cette logique-là pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 10 ans, pendant 20 ans.
Tu as perdu beaucoup d'argent parce que tu n'en as pas fait.
Tu as perdu beaucoup d'argent. Mmh. Fait que, mais on s'entend, c'est un luxe que certains n'auront jamais. Mmh. Fait qu'il ne faut pas virer fou avec ça, mais ça reste que c'est une grosse dépense de ne pas investir.
Pour les gens qui ont des placements qu'on pourrait qualifier de standard, là, c'est-à-dire qu'on ne joue pas à bourse à petite semaine et ainsi de suite, la meilleure façon de passer à travers la guerre tarifaire, c'est quoi? C'est d'arrêter de regarder les nouvelles, se prendre une petite tisane puis attendre que ça passe?
Bien, c'est toujours ça. Puis les nouvelles, c'est intéressant, ça, parce qu'il y a CNBC, là, qui est l'espèce de channel économique aux États-Unis. Là. Eux autres, ils ont, à chaque fois qu'il y a des moments tumultueux sur les marchés, là, ils ont un headline qui arrive en plein milieu de l'écran, puis ils appellent ça « Markets in turmoil ». Ça veut dire, OK, les marchés, ça va pas bien.
Ça, c'est fait pour nous faire péter du cœur.
Puis ils ont fait une étude, ils ont sorti... À chacune des dates où CNBC ont sorti le Market in Turmoil, puis ouais. Ils ont fait un panel, puis ça, ils sont allés chercher le rendement un an après.
OK.
Puis depuis 2010, c'est jamais arrivé que le rendement n'était pas positif. Ça a toujours été positif un an plus tard. Fait que c'est toujours le même principe. On voit les avions descendre ici, là. Un avion qui atterrit à Jean Lesage tantôt, pas une nouvelle. C'est assez boring. Mm. Un avion qui se crash, comme ce qui s'est passé à Toronto, là, il y a une couple de semaines, ouais. Avec le Delta qui est viré sur le top. Uh-huh. Là, ben, ça, on en parle. Il y a combien d'avions qui se sont posés à Toronto avant et
sans,
après ça?
Sans histoire.
Probablement des dizaines de milliers. Mais celui-là, on s'en rappelle. Puis j'étais à Toronto à l'aéroport avant hier, puis le monde parle encore de ça. Une mauvaise nouvelle, ça fera plus qu'une bonne nouvelle. Puis surtout, puis moi, je le vis présentement. Là. Moi, mon algorithme, c'est quoi depuis une semaine? C'est que des affaires de bourse, c'est que des affaires de finances, parce mm-hmm. que à la seconde où tu donnes de l'attention plus que 3 secondes à une affaire, tu as vu, je te fider ça. Fait que si dans ton algorithme, tu n'as que des affaires de finances, bien, ça va toujours paraître plus. Ça va toujours paraître pire que ce que ce l'est vraiment. Fait que l'idée, c'est toujours ça, là, se tenir loin des nouvelles économiques, se tenir loin de tout ce qui est l'information qui peut être un peu apocalyptique par rapport à ça, parce qu'on n'a rien à gagner de consulter ce genre de choses-là.
Jeannette Bertrand a eu 100 ans cette année. C'est quand même hot. Tu as un exemple intéressant avec une réflexion. Mettons que Jeannette Bertrand, à l'âge de 3 ans, en 1928, on investit en son nom.
Une jeune ouais. investisseuse.
Ouais. Sa mère décide de dire « Hey, je vais mettre 1 000$ sur le marché boursier américain. »
En 1928.
En 1928. Fait que l'idée, pourquoi j'ai pris 28, c'est parce que c'est l'année juste avant le grand crash de 1929, juste avant la grande dépression qui s'en est suivie. Puis après ça, pendant ce siècle-là, essentiellement, là, il y a eu énormément de moments qui, de façon rationnelle, auraient pu être considérés comme des raisons de ne pas investir. Des raisons très valables. Pense à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a quand même eu les États-Unis qui ont utilisé des armes nucléaires 2 fois oui. sur le Japon. Là. C'est quand même un détail qu'il ne faut pas oublier. Tu as eu la crise des missiles cubains, le Black Monday dont on a parlé tantôt, les guerres du Golfe, l'éclatement de la bulle techno le 11 septembre 2001, la crise financière de 2008 à laquelle on a parlé souvent ensemble, la pandémie de COVID-19 et là, tout récemment, les tarifs de Donald Trump.
Fait que ton 1 000$, là, il a vécu beaucoup de choses.
Le 1 000$, il a vécu un paquet d'affaires. Mais ce 1 000$-là, là, s'il n'avait jamais été retiré de quelque manière que ce soit, puis il avait tout simplement été oublié, là, aujourd'hui, il vaudrait à peu près 9 millions de dollars. Fait que l'idée, c'est de dire...
L'idée, c'est de rien faire.
Évidemment que je peux pas arriver à un client et dire, regarde, ton horizon, c'est 100 ans, là, ferme ta gueule. Je peux pas faire ça comme professionnel. Là. Mais l'idée, c'est de dire, hey, à seconde où il n'est jamais... Tu sais, j'ai de la misère à penser à quelque chose qui pourrait survenir, qui n'est pas survenu dans ce siècle-là.
Ouais, Jeannette aurait genre littéralement 9 millions dans son compte.
Des guerres mondiales, il n'y a rien qui est pas arrivé. Là.
Écoute.
Fait que je me dis, est-ce que c'est des tarifs puis un bonhomme un peu sénile de 79 ans qui va faire cracher l'économie Écoute. Mondiale? Temporairement, c'est sûr que ce ne sera pas le fun, ce ne sera pas confortable, mais les marchés ont vécu pas mal plus que ça dans le dernier siècle.
Ça rapporte de garder le cap longtemps.
Ça rapporte de garder le cap, puis Fidelity, peut-être la majorité d'entre vous ont probablement de près ou de loin des produits avec Fidelity. C'est le plus gros gestionnaire d'actifs en Amérique du Nord, gestionnaire privé. Là. Eux autres, à un moment donné, ils se sont dit « Hey, gars, on a 1 million, on est des millions de clients, nous autres. » on aimerait ça savoir lesquels font le plus de rendement. T'sais, c'est lesquels se distinguent par rapport aux autres. Puis ils en sont venus à deux conclusions. Il y avait deux catégories de clients qui avaient plus de rendement que tous les autres. La première catégorie, c'est les clients qui étaient morts.
ça veut dire que ça bougeait plus.
Et que la succession n'a jamais réclamé.
Oh là là.
Fait qu'on s'entend, le client qui est mort, il ne m'appelle pas cette semaine.
Non, probablement pas.
C'est assez relax.
Ouais.
Puis la deuxième, c'était les gens qui avaient oublié qu'il y avait des comptes avec cette institution-là.
Les meilleurs investisseurs, c'est ceux qui sont morts puis ceux qui oublient.
Exactement.
Wow.
Fait qu'on s'entend, ça c'est toujours un extrême ou l'autre. Là. L'idée, c'est oui, il faut s'occuper de ces trucs, mais si on a trop le nez dedans, puis on est toujours à se dire, hey, ça monte de 1, ça descend de 1, c'est la recette garantie pour être en retard en tant qu'investisseur. Fait que ça veut pas dire de ne pas parler à son conseiller, ça veut pas dire de ne pas poser des questions, ça veut pas dire de ne pas s'inquiéter.
Mais en même temps, ça, c'est rassurant. Tu sais, t'es dans le doute, je m'en vais te voir, tu me dis ça, je repars, je dors mieux, tu sais.
Ben, c'est ça le but. Tu sais, ultimement, puis ça, c'est ce que je vous dis aussi, là. Faut pas se sentir, parce que j'ai l'impression des fois, il y a des gens qui se sentent niaiseux de poser des questions.
Eh mon Dieu, oui.
Ils pensent qu'ils dérangent, puis conseiller, là, il vous le payez spécifiquement pour qu'il soit disponible à répondre à vos questions dans des périodes comme ça. Fait que si vous entendez des affaires de même, puis ça vous satisfait pas, vous avez encore des interrogations, contactez-le. Normalement, sa job, c'est d'être là pour vous. Puis ce que je me rends compte, c'est ultimement, les gens, ils savent que c'est pas si grave que ça, mais ils aiment se faire réconforter, ils aiment se le faire dire, ils aiment se faire réconforter par rapport à leur situation à eux et non pas une situation macroéconomique bien large. Là. Mm-hmm. Fait que gênez-vous pas, normalement, le conseiller est là spécifiquement pour ça.
Je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi qui sont nuls en finance, qui pensent qu'ils investiront jamais parce que justement, ils n'ont pas les connaissances. Et comment ça marche dans ce temps-là? Parce que moi, je t'écoute depuis tantôt, puis moi, tu le sais, je te suis allée, t'as dit ma retraite est dans ton driveway, j'ai changé de char. Tu sais, moi, j'écoute Alex le plus possible, mais je me dis demain matin, moi, tu me dis, hey Audrey, faut que tu investisses le plus rapidement possible. Honnêtement, je suis complètement perdue, là. Fait que y a-tu un petit cours qui vient que ça quand tu vois ton planificateur financier pour pas faire n'importe quoi ou...
Ben, moi, la manière dont je le fais, là, c'est... Tu sais, la planification financière, là, c'est 7 champs distincts l'un de l'autre. T'as les placements, la retraite, l'assurance, la succession, il y en a 7. Fait que si j'arrive à un client, je le rencontre, puis en une demi-heure, j'essaie de passer ces 7-là, ben, les deux, on va vouloir mourir à la fin. Lui, ça va paraître super compliqué pour lui. Puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va le repousser par en avant encore.
Ouais.
Fait qu'ultimement, quand on s'assoit avec un client, la première affaire, première rencontre, il faut que je parle le moins possible. Si je parle plus que 3 minutes, là, il y a un enjeu. Il faut que je parle le moins possible. On va établir c'est quoi qui est important pour ce client-là. Puis après ça, on va lui faire une étape à la fois. Fait que si on commence par le placement ou on commence par la retraite, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants, mais à un moment donné, si on les fait tout en même temps, on n'arrivera pas. Là. Fait que c'est pour ça que, ultimement, déterminons c'est quoi l'objectif du client, c'est quoi qui est important pour lui, où est-ce qu'il s'en va. Puis après ça, le plan, il se fait essentiellement tout seul.
Bien, je vais voir si j'ai bien retenu la leçon aujourd'hui. De mon côté, en tant qu'investissement, je vois ça en deux étapes. Étape 1, investir. Étape 2, oublier que tu as investi.
Ouais, exact.
C'est ça, c'est bon.
C'est simple.
Quand je t'envoie le courriel pour ton accès en ligne, là, flush-le.
Alex Leblon, merci beaucoup.
C'est bon, merci.
Alex est planificateur financier sur tout ce qui se passe présentement et la dose de stress que ça amène. Et encore une fois, il faut relativiser « chill out », qui disait le gauleur du CH. Parlant de « chill out », il est 5h18. Je répète, 5h18.
C'est l'heure Rock'n'Ball. Give it up!